associer ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Bougez pas, attention, attention.
Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Crelou.
Ne vous appelez pas, c'est des manifestants et la rue est envahie par le monde.
Et pourquoi on le ferait pas plus souvent? On pourrait le faire tous les jours, on pourrait le faire 10 fois par jour, 20 fois par jour.
Judith Stilben, appelée aussi Death ou Diethyl Stilbestrol, a été le premier estrogène de synthèse à être synthétisé par un Anglais, un universitaire anglais, dès 1938. Et en fait, si on regarde sa formule chimique, c'est une sorte de dérivé du benzène. Donc on peut imaginer les dégâts que ce genre de produit peut produire dans un corps humain.
Quels sont les troubles psychiatriques que l'on a observés sous l'effet du distilbène?
Alors, d'après l'étude qui est en train de se réaliser à l'hôpital Sainte-Anne, des schizophrénies au pluriel, des maniaco-dépressions et des troubles du comportement alimentaire. Ces enfants sont généralement extrêmement intelligents. Ils ont pour la plupart fait des études supérieures. Ils ont parfois commencé à travailler. Il y a des médecins, il y a des polytechniciens, il y a des enfants qui sont vraiment supérieurement doués. Et quand ils s'aperçoivent qu'en cas de crise, en période de crise, ils ne peuvent même plus lire, ils ne voient même plus les lettres, eh bien, quand ils se voient aussi diminués, eh bien, ça ne peut que les inciter à mettre fin à leur jour.
Les quelques 160 000 femmes enceintes qui ont pris entre 1950 et 1977, date à laquelle, 5 ans après les Américains, le distilbène a été interdit en France, les quelques 160 000 femmes enceintes à qui fut prescrit cette molécule d'œstrogène synthétique connaissaient déjà pour certaines les conséquences gravissimes que cette prise de médicaments eut sur leurs enfants, malformations génitales typiques, risque augmenté de cancer de l'utérus, de kystose ovaire et infertilité avérée. Elles savaient parfois également que le distilbène, inventé à la fin des années 30 par un chercheur qui ne déposa pas de brevet, fut pour cette raison notamment produit par de nombreux laboratoires et prescrit à tour de bras. Depuis 1996, date à laquelle un père de famille dont l'épouse avait été traitée pour ses 3 grossesses par des œstrogènes, a constaté que ses 3 enfants étaient atteints de troubles psychiques, on soupçonne fortement, et dans un certain sens, hélas, on espère parfois que le distilbène est également à l'origine de troubles psychiatriques grave. Aucune preuve scientifique, aucune certitude pour l'instant, mais une étude en cours et des présomptions graves, précises et concordantes, comme on dit. Des histoires individuelles aussi, dont le distilbène serait un dénouement ou une explication, du moins à des pathologies psychiatriques particulièrement culpabilisantes pour les parents. C'est le cas de Marie-Odile, une mère brisée, qui nous raconte son histoire au bord du précipice, à 2 doigts des larmes, jusqu'à 14 heures, dans les pieds sur terre.
Je m'appelle Marie-Odile Gobillard-Soyer. Je suis directeur de recherche émérite honoraire au Centre national de la recherche scientifique. Je suis née en Champagne, dans une famille bourgeoise de petits industriels, et je suis l'aînée de 5 enfants qui sont nés entre 1939 et 1954. J'ai eu une enfance très raisonnable. Le goût du bon travail scolaire, une bonne réussite dans ce domaine. Et puis après un bac scientifique, je suis partie à 17 ans à Paris pour faire une licence de sciences, dite de doctorat d'État, puis un diplôme d'études supérieures. Et ensuite, je suis rentrée assez précocement au CNRS à 22 ans. J'ai donc préparé ma thèse de doctorat d'État et j'y ai fondé un laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire. J'ai rencontré dans ce laboratoire celui que j'ai épousé par la suite. Donc, 2 ans après notre mariage, tout se passait très bien, je me trouve enceinte. Et pour des raisons inconnues, J'ai fait une fausse couche à 2 mois de grossesse. On m'a fait une hystérographie, bien sûr, qui n'a montré aucune malformation. Et il me fut recommandé de faire des dosages hormonaux lorsque je me sentirais de nouveau enceinte. Ma grossesse suivante s'est donc déclarée en 1966. Et le gynécologue, qui voulait bien faire, m'a prescrit à 5 semaines de grossesse un traitement très à la mode à l'époque. C'était un cocktail de distilbène, le diéthylstilbestrol, appelé aussi le DES, avec lequel était adjoint de l'éthinylestradiol. Ce sont donc 2 estrogènes artificiels, parce qu'ils sont synthétisés, à prendre chaque jour par voie orale, et une piqûre hebdomadaire de progestérone retard. Cela jusqu'au 8e mois de ma grossesse. Ce traitement, évidemment, je l'ai suivi scrupuleusement. Et ma grossesse s'est déroulée harmonieusement, sans aucune menace de fausse couche. Et la petite fille, Valérie, qui naquit ensuite en 1967, pesait près de 4 kilos et se développa particulièrement bien. Elle faisait preuve d'une intelligence et d'un éveil remarquable, puisqu'elle a commencé à parler de manière compréhensive à l'âge de 1 an. Après une scolarité sans problème, elle a choisi, après avoir passé son bac à 17 ans, de passer 1 an au Brésil pour acquérir une autre langue vivante et à son retour se lancer dans des études supérieures d'hôtellerie et de management hôtelier. Et quand elle est rentrée du Brésil, elle avait beaucoup grossi. Mais nous ne nous inquiétions pas parce qu'elle était blonde et elle était belle. Après 1 an d'école hôtelière, je me suis aperçue qu'elle se faisait vomir à cause de l'odeur qu'elle répandait autour d'elle. Et en fait, elle m'avoua un jour qu'elle n'avait pas envie de vivre et qu'elle ne s'aimait pas. Je découvris par la suite qu'elle était atteinte d'anorexie et de boulimie. Elle continue quand même son école hôtelière de Nice et elle part faire son grand stage à Paris à l'hôtel Georges V. Et à ce moment-là, juste à la fin de son stage, elle a fait une première tentative de suicide avec des médicaments qu'elle avait récupérés dans la pharmacie d'amis qui l'hébergeaient. Elle sort de son coma et courageusement, elle reprend son travail, ses études, et c'est ce qu'elle fit pendant plusieurs années, avec des crises de dépression, des rechutes, des tentatives de suicide. Elle fit en tout 14 tentatives. Elle finit par se suicider au bout de la 14e avec des médicaments. Quelque temps avant, elle avait été très bien stabilisée pendant 3 ou 4 ans avec du Prozac. Elle était tellement bien stabilisée que nous la croyions guérie. Et que là, elle a rencontré un jeune homme à Marseille, qu'elle s'est mariée. Elle avait l'air très heureuse. Ils semblaient très amoureux. Puis un beau jour, ils ont voulu avoir un enfant. Et bien entendu, le gynécologue qu'elle était allée consulter lui a demandé d'arrêter le Prozac en disant que peut-être ce produit pourrait avoir un inconvénient au niveau du bébé, du futur bébé, qui n'était pas encore conçu, puisque je découvris par la suite, dans ses affaires, qu'elle était traitée pour stérilité. Donc, elle arrête le Prozac, ça n'a pas raté. 15 jours plus tard, elle fait une première tentative de suicide. Donc, Valérie fait cette tentative de suicide l'avant-dernière, et j'arrive à Marseille, à son chevet, elle était encore dans le coma. Au moment où elle se réveillait, son jeune mari arrive, et nous annonce qu'il n'allait pas s'encombrer avec une telle malade, une telle maladie, et que par conséquent, il demandait le divorce. Alors évidemment, Valérie a été absolument bouleversée. Et le psychiatre qu'elle a vu ensuite, quand elle est venue chez moi à Collioure où j'habitais, ce psychiatre qui était un homme charmant, m'a dit ce jour-là, il a signé son arrêt de mort. En fait, Valérie n'avait pas eu le courage d'informer son jeune fiancé, son jeune mari, des problèmes psychiques qu'elle avait eus auparavant. Et donc, bien évidemment, celui-ci ignorait cette maladie chronique. Et ça n'est que lorsqu'elle a refait une ou deux tentatives de suicide qu'elle l'en a informé. Ce qui a déclenché les foudres de la famille du mari, qui, la belle-mère m'a téléphoné quelque temps après la mort de Valérie, pour me dire que je les avais trompés en ne leur annonçant pas que Valérie était malade. Et elle a conclu son entretien téléphonique, où je n'ai pas pu caser un mot, en me disant le malheur qu'a eu cette pauvre Valérie, ça a été d'avoir la mère qu'elle a eue. Alors inutile de vous dire que ma culpabilité, bien sûr, a été encore plus lourde, d'autant que 3 ans après la naissance de Valérie, je me suis de nouveau trouvée enceinte, et le gynécologue, toujours le même homme, m'a donné exactement le même traitement puisqu'il avait si bien marché la première fois. Donc j'ai, au bout de 9 mois, un magnifique garçon de 4 kilos, superbe, Nicolas. Nicolas qui a eu une enfance sans problème, c'était un enfant calme, adorable, intelligent. Et Nicolas a commencé en terminale à présenter des troubles de type violence. Violence verbale, violence vis-à-vis de sa maman. Il m'a frappé à plusieurs reprises. Et en fait, c'était déjà les prémices de sa maladie qui n'a fait qu'empirer par la suite. Et un jour, j'ai retrouvé mon fils en état de catatonie, c'est-à-dire à demi courbé, tétanisé et délirant complètement. Et là, il a fallu faire une hospitalisation d'urgence. Et il a été, à partir de ce moment-là, soigné pour ce qu'on a appelé un état borderline. Pas tout à fait une schizophrénie, mais presque. Nicolas, hélas, a suivi le même chemin que sa sœur, bien qu'il n'ait auparavant fait aucune tentative. Et il s'est suicidé 3 ans après Valérie, alors qu'il allait être réhospitalisé dans un hôpital psychiatrique pour un traitement. Et comme sa première hospitalisation de force ne s'était pas très bien passée, il en avait gardé un souvenir absolument affreux. Et plutôt que de resubir cela, il a préféré se donner la mort. Dans la nuit, vers 3h du matin, il m'avait téléphoné. J'habitais à une 30aine de kilomètres et me dit à 3h du matin, « Maman, maman, j'ai peur, je ne veux pas m'en faire hospitaliser, j'ai trop peur, viens me chercher. » Et là, je lui ai dit, hélas, je lui ai dit, « Écoute Nicolas, finis de ranger tes affaires et puis je te rappelle à 9h. » Et à 9h, il n'y avait plus personne. Avec son fusil, il s'était donné la mort. Voilà, l'histoire de mes 2 enfants. J'avais lourdement culpabilisé après l'apparition d'abord des maladies psychiatriques de mes enfants. Et je me demandais si j'avais eu tort ou raison, par exemple, de divorcer, de me séparer de mon mari. De nombreuses années auparavant, puisque j'ai divorcé en 83 et que leur mort, leur suicide s'est produit en 95 et 98. Donc, en 98, je me posais des tas de questions et je ne me souvenais même plus que j'avais pris ces traitements hormonaux pendant ma grossesse. Et fin 98, j'ouvre une revue écrite par l'UNAFAM, qui est le grand organisme, la grande association nationale qui s'occupe des familles de malades psychiques. Et cette revue, qui s'appelle Un autre regard, publiait un appel aux familles qui disait: si vous avez un ou des enfants qui souffrent de telle ou telle pathologie psychiatrique, si vous avez été traité pendant votre grossesse par des estrogènes ou par des hormones de synthèse, contactez-nous. Il y avait un numéro de téléphone. Oh, ça a été, mon sang n'a fait qu'un tour. Je les ai contactés et je suis tombée sur un père de famille de Caen, un ingénieur chimiste, dont, pour lui, les trois enfants étaient atteints de ces pathologies, et il avait fait la relation avec le traitement qu'avait eu son épouse, le traitement hormonal qu'avait eu son épouse pendant ses trois grossesses. Inutile de vous dire que j'ai rencontré très vite ce monsieur et que nous avons beaucoup sympathisé. Ce monsieur avait réuni une bibliographie déjà très importante qui faisait état des travaux internationaux qui avaient déjà été réalisés sur ce problème-là, surtout en Angleterre et aux États-Unis. Et donc, il avait voulu communiquer ces résultats-là dans un congrès, et on lui avait ri au nez. Il en avait été tellement bouleversé qu'il est rentré chez lui, il est tombé malade, et quelque temps après, il est décédé. Nous qui étions à l'époque famille dans le même cas, nous étions 28 à l'époque, 28 familles. Finalement, à 4, nous avons décidé de fonder une association que nous avons appelée Orage France, Orage avec deux H, parce que ça veut dire halte aux hormones artificielles pour les grossesses. Nous étions 4 mousquetaires. Et nous avons commencé à élaborer et surtout à rencontrer des personnes susceptibles de nous aider. Et d'ailleurs, au fur et à mesure des parutions dans les journaux ou des interviews à la radio ou à la télévision, de nombreuses familles nous ont contactés. Et actuellement, Orage France comprend environ 1100 familles, ce qui représente beaucoup plus d'enfants atteints, bien sûr, que 1100. Ces 1100 familles nous font confiance et surtout, elles nous aident. Elles nous aident en répondant à des questionnaires, elles nous aident par leurs témoignages, en fournissant, par exemple, les ordonnances qu'elles ont eues, car bien sûr, il faut être le plus argumenté possible, même si les événements sur lesquels nous travaillons à l'heure actuelle ont eu lieu il y a environ 40 ans, il faut bien le dire.
Alors, quels ont été les effets du Distilben sur les personnes qui l'ont pris ?
Alors, les effets se sont fait sentir, et souvent à long terme, chez la maman, chez la fille et chez le garçon. Chez la maman, on a pu observer, et ça nous l'avons dans nombre de nos témoignages, de nombreux cancers du sein, cancers des voies génitales et autres cancers. chez les enfants, ce qui s'observe le plus facilement au départ, à la naissance, c'est chez le garçon, où les malformations génitales sont très visibles. Ces malformations sont de deux types. Une mauvaise position du canal urinaire ou alors une non-descente de l'un ou de l'autre ou des deux testicules. En ce qui concerne les filles, les malformations de type somatique sont bien sûr au niveau de la structure de l'utérus, de l'hypofertilité, de ce qu'on appelle l'endométriose et également de cet adénocarcinome à cellules claires qui est un cancer au niveau du vagin. Mais il y a également d'autres types de malformations qui ne sont pas encore très connues et que nous avons répertoriées néanmoins dans nos dossiers. Manque d'une vertèbre, par exemple, communication entre divers organes, des malformations qui se sont produites au cours du développement embryonnaire. Le cas des troubles psychiatriques a été très peu étudié jusqu'à présent. Il y a eu néanmoins quelques études qui ont été faites en Angleterre en particulier et aux États-Unis. Mais dans l'ensemble, aucun travail d'envergure n'a été entrepris sur le lien entre prise d'hormones par la mère et apparition de troubles psychiatriques chez les enfants.
Parce qu'aujourd'hui, c'est acquis que le distilbène a engendré des malformations physiques et des cancers.
Oui. D'ailleurs, plusieurs procès ont eu lieu récemment en France. Ils sont rares. Parce que les familles doivent s'armer de courage, et il faut souvent entre 10 et 15 ans pour faire reconnaître de telles malformations liées au distilbène. Et hélas, quelquefois, la jeune femme n'est plus là et elle est quelquefois décédée. Je pense à un cas particulier d'une jeune femme atteinte d'un cancer du sein qui est décédée alors que le procès a été gagné postérieurement. Il est bien évident que les laboratoires pharmaceutiques se défendent becs et ongles et qu'ils trouveront tous les moyens possibles, en appel en particulier, pour mettre des bâtons dans les roues des familles qui veulent la reconnaissance de ce problème.
Alors pourquoi est-ce que c'est important de reconnaître les effets du distilbène alors qu'il n'est plus prescrit aujourd'hui ?
Étudier et démontrer cette relation, ce lien, est pour nous d'une importance capitale. En effet, cela nous déculpabilise en tant que mère. Parce que bien évidemment, lorsque nous allions avec nos enfants, nos grands-enfants, chez le psychiatre, celui-ci ne manquait pas de nous dire, comme me l'a dit l'un d'eux, « Madame, c'est vous qui avez transmis votre propre angoisse à vos enfants. C'est pour cela qu'ils sont malades. » Et en sortant de la consultation, mes enfants m'ont dit « Tu vois, maman, c'est ta faute si nous sommes malades. » Donc, je voudrais que cette recherche, ce lien, déculpabilise les mères. Et cette reconnaissance du lien, elle est extrêmement importante aussi pour les malades eux-mêmes, pour atténuer un petit peu de cette souffrance, de ce poids, parce qu'ils sont extrêmement intelligents. Ils savent que leur maladie pèse non seulement sur leur vie à eux, mais aussi sur la vie de leur famille. D'autre part, il est bien évident qu'il faudra un jour obtenir réparation. Cette réparation, elle peut être une simple compensation financière, bien sûr. Moi, cela ne me remplacera pas mes enfants. Mais il y aura au moins ce petit plus. Ils n'ont pas respecté le principe de précaution et donc ils doivent payer. D'autre part, pour les familles qui ont encore leur enfant à charge, et ces grands-enfants seront souvent à charge jusqu'à la fin de la vie des parents, ces parents sont très inquiets sur le devenir de leurs enfants. Et bien sûr, s'il y a une compensation financière, cela pourra permettre aux enfants d'être à l'abri et de pouvoir ultérieurement bénéficier de soins que ne manquera pas d'apporter la recherche ultérieurement.
Qu'est-ce qui vous fait avancer aujourd'hui ?
C'est l'espoir de découvrir ce fameux lien entre traitement hormonal et troubles psychiatriques qui contribuera à une connaissance plus fondamentale de l'origine de maladies psychiatriques. Ce qui me fait avancer aussi, c'est le souhait que de nombreuses familles se rendent à l'hôpital Sainte-Anne pour se faire prélever, de manière à ce que notre étude avance le mieux et le plus rapidement possible. Et puis, ce que je voudrais dire aux familles qui ont la chance d'avoir encore leurs enfants, même s'ils sont souffrants, même s'ils sont malades, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ils pourront peut-être bénéficier des nouvelles découvertes de la science concernant le traitement de ces maladies psychiatriques. Et je mets un immense espoir dans les travaux qui sont réalisés à l'heure actuelle sur les cellules souches.
Dieu, que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et l'autre affaire d'Istilben, un reportage de Katia Chapoutier réalisé par Jean-Christophe Francis, au mixage Michel Mestre et un coup de main de Jacques Vincent. L'attaché de production, c'est toujours Sandrine Chaperon. Merci à l'association Orage, ainsi bien sûr qu'à Marie-Odile. Vos réactions, vos suggestions, vos idées et tous vos témoignages, c'est toujours sur notre site internet franceculture.com à la rubrique Les Pieds sur Terre.
France Culture.